Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le viseur de récits d'opérations, de récits de vie militaire en tout cas, avec donc des militaires qui reviennent sur un moment de leur carrière, sur un souvenir en tout cas de leur vie militaire. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie du lieutenant-colonel Benjamin, donc de l'école de guerre-terre, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Et donc vous êtes donc aujourd'hui à l'école de guerre-terre, donc de l'armée de terre nécessairement, mais donc c'est un souvenir qui remonte un peu, vous allez nous raconter, et je crois que ça se situe en Afghanistan, donc, et il y a maintenant un peu plus de 10 ans, il y a 11-12 ans, donc qu'est-ce que vous faisiez en Afghanistan en 2009, bon ça on se doute peut-être un tout petit peu, mais et ensuite que vous nous direz ce qui s'est passé.
Bien écoutez, cette histoire que je vais vous témoigner se déroule donc en 2009. Donc en 2009, en fait, j'appartiens au GTIA Korrigan, qui est à majorité vient du 3e régiment d'infanterie de marine, qui est de Vannes. Moi, j'occupe dans ce GTIA en fait les fonctions de DL Art, donc c'est le détaché de liaison artillerie. Donc pour simplifier, en fait, je suis le conseiller feu. Du chef de corps du GTIA. Donc en fait, je suis déployé en Afghanistan avec mon unité. Donc c'est la 2e batterie du 11e régiment d'artillerie de marine, qui elle est située à l'Alandoué. Et donc en fait, je suis rattaché à ce GTIA, un appui de ce GTIA. Et mon rôle, en fait, c'est de fournir les appuis-feux aux unités d'infanterie, aux sous-GTIA, qui sont déployés dans la vallée de la Kapisa.
Donc vous opérez des batteries César, quoi, des canons César, non ?
Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait le mandat que j'ai pu effectuer était le troisième mandat dans cette vallée. Donc on est au tout début. Vous savez que la France, lorsqu'elle s'est déployée en Afghanistan, elle était tout d'abord dans la région de ce qu'on appelle la RC Centre, la Regional Command Centre. Et à partir de 2008-2009, elle a commencé à migrer dans la partie Est. Et c'est là qu'elle a pris en fait son mandat dans la vallée de la Kapisa. Et donc en fait, nous étions disposés en deux unités. En fait, l'état-major était sur la partie de Nijrab, avec une compagnie d'infanterie, avec un sous-GTIA. Et le deuxième sous-GTIA était sur la partie de Tagab. Donc en fait, avec ces deux positions, on pouvait occuper et tenir, c'était notre mission, la vallée de la Kapisa. Donc on était installé dans des FOB, ce qu'on appelle, des Forward Outbase, qui étaient des bases durcies dans lesquelles on était installé. Et donc moi, en fait, j'étais rattaché au sein de l'état-major qui était sur Nijrab. Et j'avais chacune de mes deux sections. Donc j'avais deux sections au sein de ma batterie. Et une section était rattachée au sous-GTIA de Nijrab. Et une autre était rattachée au sous-GTIA de Tagab. Et donc moi, en fait, depuis l'état-major, je m'occupais de l'aspect technique. C'est-à-dire lorsqu'il y avait un besoin d'appui-feu, eh bien ce besoin d'appui-feu venait des unités d'infanterie dans lesquelles étaient déployées les équipes d'observateurs. Et donc lorsque le commandement tactique validait cette demande de feu, eh bien moi je m'occupais de la chaîne en fait de la chaîne technique. Donc cette demande remontée par la chaîne artillerie, mon rôle était de vérifier en fait que le tir était conforme, qu'il respectait bien sûr les droits des conflits armés, qu'il respectait les bonnes zones d'engagement, qu'il respectait aussi les bonnes coordonnées.
Donc vous, c'est vous qui disiez les Césars vont là-bas, on se place, et ensuite là on tire, ou là ce que vous nous dites c'est, parce qu'on a déjà eu des témoignages d'artilleurs, on sait que ça tire précisément, relativement, enfin, c'est précisément d'un point de vue statistique, mais bon, c'est quand même pas du tir direct guidé, quoi.
Ah, tout à fait, c'est du tir indirect, et en fait, forcément, l'artillerie se sert de la dispersion, ce que l'on appelle, pour pouvoir battre son objectif.
Mais donc, vous dites, bon, là, c'est pas trop une bonne idée, en vue de votre objectif, là, je le sens pas trop...
Alors, non, par exemple, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, par exemple, sous le stress du combat, les coordonnées sont erronées, et en fait, on se retrouve avec des coordonnées amies au lieu des coordonnées ennemies. Alors, c'est pas arrivé, mais ça fait partie de mon rôle de vérifier ça. Après, ça peut être aussi quelque chose de très intéressant, c'est le calcul du tir au voisinage des troupes amies. C'est-à-dire, imaginons, et ça c'est arrivé plusieurs fois, que les troupes sont quasiment imbriquées, donc en fait on a un combat très rapproché au niveau des unités d'infanterie, et donc en fait il faut quand même délivrer des appuis-feu parce que c'est une demande du niveau tactique, et bien en fait mon rôle, puisque moi je suis à l'état-major, j'ai du recul, et ça me laisse le temps en fait de calculer si en fait ce tir ne va pas être trop près des troupes amies, et de savoir si on peut véritablement le délivrer.
On mesure, mais c'est marrant, on n'y pense pas forcément à l'artillerie, notamment vu de cette dispersion dans cet endroit qui était la Capissa, donc avec des fonds de vallée hyper étroits, quand il y a des accrochages, souvent c'était bon, dans les villages, etc., enfin bon, avec des trucs assez imbriqués, on pense pas forcément que justement que ce soit toujours safe quoi, d'utiliser l'artillerie dans ce genre de théâtre. Quoi.
Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, lorsque l'ennemi est éloigné de l'ami, c'est très facile de délivrer un feu, il suffit de vérifier qu'il n'y a pas, par exemple, de village aux alentours, de population, donc ça c'est le rôle des équipes d'observation qui sont à l'avant et qui voient bien évidemment là où elles demandent le tir. Mais dans le cas du combat que l'on avait dans la vallée de la Capissa, c'est que très souvent les combats étaient très très rapprochés, à moins d'une centaine de mètres. Donc lorsqu'il fallait tirer, lorsqu'on a l'ennemi à 100 mètres, c'est trop dangereux de tirer. Donc soit on demande aux troupes d'infanterie de reculer un peu, ou alors en fait on attend que l'ennemi manœuvre pour pouvoir à ce moment-là tirer.
Donc vous êtes à l'état-major, donc à Nijrab, vous faites la coordination, quand quelqu'un a besoin d'un artilleur, c'est vous qui décrochez le téléphone en quelque sorte.
En fait ce qui se passe, c'est que l'état-major à Nijrab, il fonctionne comme une équipe en fait, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le mandat que j'ai vécu a été un mandat assez dur, je pense, hein, que ce soit pour tous les soldats, je pense que du simple soldat jusqu'au colonel, ça a été un mandat assez intense, on va dire, sur le plan des combats. Aujourd'hui, on parle du retour à la haute intensité. Je pense qu'en fait, lorsqu'il y avait des combats, on était à la haute intensité. La zone de combat était réellement une zone de haute intensité. Et en fait, si vous voulez, lorsqu'on planifie des opérations, eh bien, on sait où en fait l'infanterie va se déployer, quelle va être sa mission, si elle doit conquérir une zone de terrain, si elle doit faire un contrôle de zone, si elle doit faire des points de contrôle, par exemple, pour contrôler la population et les véhicules. Et donc, en fonction de ça, on prévoit des plans de feu, savoir où on va pouvoir appuyer. Et après, lorsqu'à chaque fois le combat commence, et bien en fait en permanence les équipes d'observation qui étaient déployées au sein des sections et des compagnies d'infanterie, des sous-GTIA, elles en fait proposent en permanence un appui-feu au capitaine qui commande le sous-GTIA. Donc elles lui disent, bon ben voilà, là on est dans telle situation, moi je peux fournir tel appui-feu, voire tel appui hélicoptère ou tel appui avion. Alors moi, cette partie-là, hélicoptère-avion, c'était le coordinateur 3D, troisième dimension, qui s'en occupait. Moi, je me concentrais plutôt sur la partie artillerie. Et comme je le dis, avec le recul que j'avais, et on va dire le calme relatif que j'avais dans le PC, ça me laissait le temps, en fait, de vérifier que toutes les coordonnées qui étaient données étaient bonnes, que le type de munitions demandées était convenait, et donc, du coup, de pouvoir autoriser, en fait, un feu qui correspond à la situation tactique du moment.
Ok, et alors ce jour-là...
Je voudrais juste revenir à la question que vous m'avez posée juste avant, c'est sur les matériels. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'on avait... notre mandat, en fait, a fait la transition avec le César. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on a été déployé, nous, on avait des mortiers de 120 mm. Et on avait des canons TRF-1, donc tractés. Et en milieu de mandat, en fait, on a eu la transition avec le canon César. Donc en fait, on a été les premières unités d'artillerie à accueillir le César en opération et à faire les premiers tirs opérationnels au César. Donc en fait, on a découvert, on connaissait la machine, on va dire en camp de manœuvre, en camp d'artillerie, et là en fait, on découvrait la machine en emploi opérationnel. Et donc on a pu tester tous les types de tirs que nous offrait cette machine, et on a pu voir les performances qu'elle nous permettait de réaliser, hein, autant en portée, en précision et bien évidemment en puissance. Donc ça a été quand même aussi quelque chose qui a marqué le mandat, c'est ce passage avec cette arrivée de ce nouveau matériel qui aujourd'hui est French Combat Approved, et là on peut vraiment être sûr qu'il a été testé au combat.
Vous répondez de la qualité du César depuis la première ligne.
Oh, largement, oui, parce qu'on a été nous-mêmes agréablement surpris, on va dire, de la précision. J'ai un petit souvenir annexe à celui que je voulais témoigner, mais là-bas, on a fait le premier tir longue portée, en fait.
C'est-à-dire quoi, longue portée?
C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que le César peut tirer une quarantaine de kilomètres, et lorsqu'on était sur place là, en Afghanistan, on a dû mener une mission en profondeur dans la vallée. Bon, les Césars ne bougeaient pas, ils étaient stationnés sur les FOB, comme je l'expliquais, et depuis les FOB, on tirait. Et donc, un jour, alors ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans la profondeur, en fait, on déployait les mortiers au plus près des troupes infanterie. Et donc, une fois, on a dû mener une opération dans une vallée assez profonde. Donc, on a bien sûr fait suivre les mortiers. Mais après, c'était l'occasion de tester un tir à longue portée. Donc, j'ai souvenir qu'on a pu faire un tir à presque 39 km. Donc, c'est la première fois qu'on faisait ça en opération. Donc ça a été quelques gouttes de sueur quand même, parce que autant vous dire que le temps de vol de l'obus est très long. Donc entre le moment où vous autorisez le tir et entre le moment où l'observateur vous dit « ça y est, j'ai enfin vu le tir », alors il ne le dit pas comme ça, c'est codifié. Bon, il y a quand même quelques gouttes de sueur pour être sûr qu'on est sur la bonne trajectoire, sur la bonne distance.
Ça prend combien de temps ? À combien de temps vous vous demandez si vous n'avez pas tapé un dromadaire ou un avion au lieu de la cible ?
Le temps de vol, vous dites ? Bon, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un obus de César, donc vous avez bien compris qu'en fait l'obus monte et redescend, et donc en fait là où il arrive au plus haut de la cour, on appelle ça la flèche. Alors ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a réalisé ce tir-là, la flèche était de 17 km d'altitude. Alors, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça fait. Donc dans un premier temps, on a dû, avant de faire le tir, dévier les avions tankers. Donc quand il a fallu faire la demande aux Américains, ils étaient assez surpris de cette demande-là, parce qu'ils disaient, mais comment c'est possible d'avoir une telle flèche? Et donc, en fait, on leur a expliqué que c'était le matériel César. Donc, ils étaient assez intéressés de cette nouvelle machine. Donc, du coup, il faut dévier les tankers pour leur expliquer qu'ils ne restent pas sur cette trajectoire. Et après, étant donné que l'obus monte à une telle altitude et redescend, on est à peu près, alors de mémoire, on doit être à un peu plus d'une minute trente de temps de vol. Donc c'est très long pour nous les artilleurs, parce que voilà, départ du coup et arrivée du coup, on est pressé de savoir si on a fait notre travail correctement. Bon, et la machine fait que le tir était quasiment précis dès le premier tir, donc on a dû faire un petit réglage, et puis après on était sur objectif, donc ce qui prouve bien que cette machine était vraiment fabuleuse, et elle l'est toujours d'ailleurs.
Alors cette histoire donc plus précise que vous allez nous raconter, donc c'était en 2009, vous êtes donc dans ce déploiement, dans cette task force, qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan?
Bah, en fait, c'est à travers ce témoignage qui est vraiment très personnel, je souhaitais rendre un hommage en fait à nos familles en fait. Et à travers ce témoignage, surtout à la mienne, et à mon épouse et à mon fils, en fait. Alors, je parle pas de ma fille, parce qu'à cette époque-là, elle n'existait pas, elle était même pas construite, mais
on peut la saluer aussi.
Voilà, mais j'en profite pour la saluer, bien sûr. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a commencé la préparation à cette mission en Afghanistan, donc c'est une préparation qui est longue. Moi, j'ai été déployé de juin à décembre 2009. Et alors il faut savoir que la préparation elle a commencé dès le début de l'année, dès janvier, mi-janvier de l'année 2009.
Ouais, c'était 6 mois de préparation,
voilà,
6 mois de déploiement.
Exactement, c'était quasiment 6 mois de préparation et 6 mois de déploiement. Donc lorsqu'on a commencé cette préparation, eh bien, au début de la préparation, en fait, mon épouse m'apprend qu'elle est tombée enceinte. Alors excellente nouvelle, parce que moi je n'étais pas encore papa à cette époque-là. Donc elle m'apprend que, qu'elle est enceinte, donc bon, ben je...
Et là, vous êtes au début de la préparation.
Alors, j'étais au début de la préparation.
Vous dites, oula, c'est, je vais pas être tellement là dans les 9 mois qui viennent.
Donc du coup, on est un petit peu dans ces petits souliers quand on... Parce qu'en fait, mon épouse se doutait bien que la préparation allait... Parce qu'en fait, on était pas, on commençait la préparation, mais on n'était pas sûr d'être que ce soit notre batterie qui était engagée. Donc en fait, bah, bien évidemment, moi j'étais très heureux, fou de joie d'apprendre cette nouvelle, mon épouse aussi. Et puis bah, moi je commençais la préparation, sachant qu'on était plusieurs unités à pouvoir partir. Bon. Et je lui dis, bah, il y aura peut-être des chances que je sois déployé. Bon, bah, mon épouse me dit c'est comme ça de toute façon, donc je me doute bien que tu...
Quand on épouse un militaire, voilà. c'est un peu le
Exactement.
C'est un peu le jeu. Quoi.
Donc elle se doutait bien que, le choix serait vite fait. Donc, bon, et puis bon, bah, les choses ont fait que c'est moi qui suis parti avec mon unité. Donc là, la préparation s'est poursuivie et puis mon épouse a tranquillement poursuivi sa grossesse. Donc,
c'est une question intéressante aussi. C'est les grands chefs le savaient. Enfin, je veux dire, à qui vous en parlez? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est genre quand une conjointe tombe enceinte. Vous le déclarez à qui? Enfin, les gens le savent. Il y a une truc RH de gens qui savent que bah il y a un bébé.
C'est une question très intéressante. Alors sur le plan RH, vous n'êtes pas obligé de l'annoncer tant qu'il n'existe pas votre enfant, puisque en fait ce qui se passe dans l'institution, c'est que lorsque vous êtes votre situation familiale change, alors que ce soit en ayant un enfant de plus, un enfant de moins, un divorce, un mariage, et ben là vous prévenez l'administration pour mettre à jour en fait votre situation administrative. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de le dire lorsque votre épouse tombe enceinte. Bien évidemment, après, nous les militaires, on est des gens de toute la société. Donc en fait, on est une représentation de la population française. Donc on est comme tout le monde. Lorsqu'on apprend une bonne nouvelle, eh ben, on a envie de le dire à qui on veut, à nos amis. Alors bon, ben, moi dans mon cas, bien évidemment, je ne l'ai pas caché à mes hommes. À mon unité, je ne l'ai pas caché à mes chefs et je leur ai dit voilà, mon épouse. Alors, bien évidemment, j'ai attendu le délai légal pour être sûr, enfin, vous savez comment c'est. Et voilà, je l'ai annoncé en toute simplicité voilà, mon épouse est enceinte, donc mes chefs étaient au courant que mon épouse est enceinte. Je ne suis pas le seul à vivre cette expérience-là, mais par ce témoignage, je pense qu'on peut porter haut ce que peuvent vivre les militaires.
Non, mais c'était aussi la question un peu indirecte, mais bon, ça, on n'en sait rien, mais de est-ce que quand ils choisissent quelle batterie ils déploient, est-ce que c'est le genre de truc qui entre en ligne de compte? Probablement pas, parce que il y a toujours probablement quelqu'un qui est dans la famille enceinte. Mais
voilà, ouais. Tout à fait. Dans mon cas personnel, on n'allait pas dire que l'unité ne partait pas parce que son capitaine avait son épouse enceinte. Non. Après, bien évidemment, je serais allé voir mon chef en lui disant, bah écoutez, moi je n'ai plus envie de partir parce que mon épouse est enceinte. Mon chef l'aurait très bien pris. Mais il m'aurait remplacé. Bon, il était inconcevable pour moi d'être remplacé pour une telle mission. Et d'ailleurs, moi, j'ai des soldats de mon unité. Bon, l'Afghanistan, il fallait savoir que c'était des petits détachements qui partaient hein, au final. Donc moi, j'avais un effectif d'une unité qui me permettait en fait de choisir mes soldats.
C'était combien?
Bah en fait, j'avais une unité à peu près à 130 hommes, et puis je suis parti avec un peu plus de la moitié. Et le reste de mon unité a permis en fait de compléter des unités tournantes qui partaient sur d'autres missions. Donc en fait, on pouvait se permettre de choisir. Moi, j'ai le cas de quelques soldats de mon unité qui m'ont avoué ne pas vouloir partir sur cette mission-là. Alors après, en tant que chef, on est là pour les écouter. On les comprend, mais on n'est pas là pour les forcer. Donc, bien évidemment que la majorité des hommes qui font partie de nos unités sont prêts à s'engager. Après, ben, si ce jour-là, il y en a un d'entre nous qui ne veut pas être déployé parce qu'il a quelque chose de personnel qui l'en empêche, ou un sentiment personnel, ben, on n'est pas là pour le forcer. Alors, bien évidemment, on va échanger avec lui, on va discuter sur ce sujet-là pour savoir ce qui se passe. Mais après, jamais un de nos chefs forcera quelqu'un à aller faire ça. Et tant qu'on peut se le permettre, bien évidemment. Donc là, cette fois-là, on pouvait se le permettre. Donc on a fait les choses bien, bien évidemment.
Bon, donc elle est enceinte, il y a la préparation, vous avez dû rater 2-3 échographies quand même.
Ah, j'ai raté pas mal de choses, oui.
Ouais.
Mais bon. j'ai pas fait le papa parfait en suivant les préparations de séance. Donc voilà, au final, je suis déployé en juin 2009. Et en fait, au final, je pars, mon épouse est enceinte de 6 mois. Voilà, donc tout va bien. Elle va bien, bon, elle est solide, forcément. Elle n'a pas épousé un militaire pour rien, donc voilà. Et puis je pars, et puis là, voilà, les trois premiers mois de la mission se déroulent bien, et pour elle et pour moi. Et puis après, étant donné que la période, on va dire, d'accouchement arrivait, alors moi j'étais, lorsque j'étais...
Vous aviez des permes, des retours
non.
en maintenant
Non, alors en fait,
dans
ce genre de mission, quand on y est, on ne revient pas, ce n'est pas des missions où on peut avoir des permissions pour revenir, c'était pas envisageable, et puis je pense que ça aurait été même beaucoup plus perturbant pour tout le monde, autant pour moi de quitter la mission et revenir, mon épouse aussi, donc je pense que c'est pas le mieux. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans cette mission, en fait, à l'époque, on n'avait pas trop de moyens de communication. On avait un réseau internet, mais alors qui était, je ne sais pas si les plus jeunes qui écouteront ce podcast vont savoir, mais on avait du 56K. Donc autant vous dire que les pages web, elles se téléchargeaient pas rapidement. Donc je pouvais échanger avec elle par mail sans problème. On a réussi à faire une ou deux visios, mais vraiment pas plus. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais un petit téléphone, vous savez, de l'époque où il n'y avait pas d'écran, c'était juste des touches là, pour taper le numéro. Et j'avais pris une carte SIM locale, en fait. Et puis du coup, on téléphonait comme ça à nos familles, en fait. La majorité de nous faisait ça. Et donc, du coup, j'avais pris ça de manière à être un peu plus joignable. Parce que comme je voyais que la période d'accouchement arrivait, je voulais être sûr qu'elle puisse me joindre. Et donc, en fait, voilà, j'avais ce petit téléphone avec cette carte SIM. Bien évidemment, on n'échangeait que sur des sujets basiques. On n'échangeait pas du tout sur mon travail. Ce qui est normal, hein, parce que je ne voulais pas que...
Ah, vous ne racontiez pas la journée.
Voilà. Non,
la flèche à 17 km.
Non, je ne racontais pas la journée de travail. Donc, d'ailleurs, je crois que je n'ai jamais raconté l'histoire de la flèche à 17 km. Elle l'écoutera sûrement dans cet audio. Je n'y ai malheureusement pas raconté grand-chose de cette mission. Mais on raconte peu les militaires, en fait, à nos familles. Donc c'est... Et bon,
c'est aussi pour ça qu'on fait ça, mais c'est une question intéressante parce qu'il y a différentes manières de raconter.
Exactement.
Et de transmettre ou pas. Enfin bon, ok. Et donc vous saviez que, parce qu'en plus, vu que vous étiez au PC, quoi, enfin, à Nijrab, vous aviez du réseau, quoi.
Voilà, j'avais du réseau, ça passait, donc je savais que si vraiment il se passait quelque chose, elle pouvait m'appeler. Alors bien évidemment, quand on sortait de la base pour une opération, moi je prenais jamais le téléphone, mais elle savait que je m'absentais pour quelques jours, et voilà. Bon, et en fait, comme quoi des fois les choses sont bien faites, ce jour-là, en fait, on était en préparation d'une grosse opération. Et donc, en fait, à cette époque-là, on était sous le RCS, le Regional Command Est, était sous commandement encore des Américains. On n'était pas encore à l'époque de la Task Force Lafayette, qui était commandement français. Donc, en fait, le chef...
La Task Force Lafayette, précisons, sera le mandat suivant,
exactement.
Où les forces françaises seront autonomes dans les vallées de Capitaine-sur-Aude.
Exactement.
Enfin, qui se prolonge, quoi.
Donc nous, en fait, on était dans ces vallées-là, on était déjà installés dans ces vallées-là, mais en fait, on était encore sous le commandement américain. Donc, en fait, le chef du colonel du GTIA, c'était un général américain. Et donc, en fait, on était en train de planifier une grosse opération. C'était une des plus grosses opérations du mandat. Et donc, en fait, on avait préparé ce qu'on appelle un mission brief pour vraiment présenter notre mission. Et donc, dans ces cas-là, on fait venir, en fait, l'état-major américain pour leur expliquer l'opération que l'on a prévue. Et donc, du coup... Eux, au moins, ils sont au courant de ce que l'on va faire, ils peuvent prévoir en fonction des appuis dont on aura besoin, avions, hélicoptères, et ainsi de suite. Et puis, forcément, on était sous leur commandement, donc il fallait qu'ils le sachent. Donc, ce jour-là, c'est un petit peu la grosse réunion, on va dire. On se réunit tous dans la salle de réunion, on présente notre mission, et puis en fait, ça se passe, en fait, c'est le chef opération qui présente la majorité des éléments, le chef de corps, bien évidemment, qui présente son appréciation tactique, et puis après, chaque détaché de liaison explique sa partie, donc le logisticien explique la logistique, on va dire que le sapeur va expliquer la partie génie, et puis donc, vient mon tour, où je dois expliquer la partie artillerie. Donc, bien évidemment, tout ça en anglais. Et puis alors, comme quoi les choses de la vie...
Vous devez avoir un accent anglais fantastique.
J'ai un accent anglais fabuleux, mais on refera la prochaine fois en anglais.
Si c'est super.
Et donc du coup, Et donc comme quoi la vie est parfois assez, assez anecdotique. Et donc je commence ma présentation de la puffe artillerie que je propose pour cette opération. Et ma poche du tri se met à vibrer, donc bon, mais je continue à présenter, à vibrer. Et puis bon, après je... je suis un peu perturbé, disons. Et alors là, mon chef...
Parce que vous savez, ça, c'est la poche bébé.
Bah oui, voilà, je me dis, c'est le téléphone qui sonne et c'est pas bon. Bon. Et donc, mon chef, le colonel, qui commence à me connaître au bout de 3 mois de mission, il m'arrête, il me dit... Et puis là, en français, alors qu'on parlait tous en anglais, il me dit, Benjamin, qu'est-ce qui se passe? Et donc, en français, je lui réponds, écoutez, mon colonel, j'ai mon téléphone qui vibre et je pense que c'est mon épouse qui m'appelle parce qu'il doit se passer quelque chose. Ah, donc là, bien sûr, le général américain, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Donc, le chef Ops qui...
Ah, il croyait à une attaque d'insurgés.
Non, voilà, ça a surpris un petit peu tout le monde à l'état-major, mais en ambiance décontractée, donc, puisque j'avais le sourire, bien évidemment. Et donc, le chef Ops qui, en plus, lui, est rentré des États-Unis, donc il parlait parfaitement un américain parfait, donc explique au général américain en disant, bah, écoutez, le lieutenant-colonel Benjamin, là, il a son épouse est enceinte, on sait qu'elle va pas tarder à coucher, donc il nous dit que c'est peut-être ça. Donc, très gentiment, le colonel me dit, écoute, Benjamin, tu sors, tu réponds au téléphone, tu vois ce qui se passe, et puis après tu reviens, et puis on fera ta présentation après, on passe à un autre en attendant. Donc je sors, et puis donc bien évidemment je rappelle mon épouse après les 5 ou 6 appels qu'elle m'a fait, et puis en fait elle m'expliquait qu'elle était à la maternité, que ça commençait, et puis elle voulait absolument me dire que voilà que tout allait bien pour l'instant, mais voilà que qu'elle était partie parce que il fallait y aller quoi. Donc du coup je suis content, je suis ravi bien évidemment. Je commence à être un peu ému, mais bon, après voilà, je rentre dans l'état-major, j'explique à tout le monde que tout va bien, mais que mon épouse est en train de commencer le travail, disons. Et puis bon, je fais mes présentations, la réunion se termine, et puis tout va bien. Et puis quelques heures après, dans la journée, mon épouse me rappelle, elle me dit, écoute, voilà, tout s'est bien passé. J'ai enfin accouché, et puis le petit Hugo est là. Sachant que on n'avait même pas prévu, en fait, on s'était vaguement accordé...
Elle avait décidé le prénom.
En fait, non, on s'était vaguement accordé sur des prénoms qui nous plaisaient, mais au final, on n'avait pas décidé du prénom qu'on allait choisir. Et puis mon épouse me dit, écoute, ce sera Hugo, parce que voilà, je le sens comme ça. Donc c'était parmi les prénoms qu'on avait présélectionnés, donc tout allait bien.
Et vous, en termes de levier de négociation, à 12 000 km de là, il n'y avait pas de...
Voilà. Voilà. Donc voilà, donc, c'est une sensation assez particulière parce que voilà, mon épouse, alors bien évidemment, elle n'a pas accouché toute seule, elle était rentrée dans la famille. Elle avait même demandé à ma sœur d'être présente, entre guillemets, pour me remplacer. Donc voilà, donc du coup, elle n'a pas accouché toute seule, mais elle était encadrée de sa famille, mais sans le papa, on va dire. Donc.
Mais alors du coup, vous nous avez dit, donc on rentre pas, on n'a pas de père même pour un enfant. Mmh. Donc quoi, ensuite 3 mois.
Déjà la journée, elle se termine pas comme ça. Alors j'annonce une fois que Hugo est enfin là, je l'annonce à tout le monde. Bien évidemment, je suis heureux. Et puis bien évidemment, je partage. Un verre avec mon unité sur place, donc c'est vrai qu'on a j'avais réussi à trouver du champagne sur place, à faire venir du champagne sur place grâce à un officier à l'officier qui s'occupait de l'ordinaire, donc de la nourriture.
C'est toujours bien d'avoir des complices dans la logistique.
Voilà, donc on avait un sous-officier formidable pour ça, donc il avait réussi à me trouver du champagne sur place, donc on partage une coupe de champagne, donc voilà. Et donc c'est vraiment un bon moment. Et le soir, en fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, vous savez que dans la vallée de la Capissa, il y avait donc les deux FOB principales, Nijrab et Tagab. Nous, on était sur Nijrab. Mais après, il y avait une myriade, alors peut-être pas une myriade, mais il y avait de nombreuses COP, donc des Combat Outposts. Donc ce sont des mini-FOB, on va dire, dans lesquels il y avait soit des policiers afghans, soit des militaires afghans, soit aussi quelques-uns de nos militaires français qui étaient en OMLT, donc je pense que vous avez déjà fait des témoignages de gens qui ont fait des OMLT, c'était les Operational Mentoring Liaison Team, c'était les militaires français que l'on déployait dans des COP avec des militaires afghans, et il les encadrait, il les formait, il les accompagnait au combat. Bon, ces unités en fait ne bénéficiaient d'aucun appui, à part leur propre armement. Et donc très souvent, ils avaient des suspicions d'attaque, très souvent la nuit. Et donc assez souvent, nous, on devait tirer la nuit, en fait, prioritairement pour éclairer aux alentours de la COP, de manière à leur permettre de mieux voir les alentours et de voir si réellement une attaque était en train de se produire.
Ouais, et donc, vous tirez quoi ?
Des éclairs. Donc des obus éclairs, en fait. Ce sont des obus qui dépotent en l'air, qui font sortir un petit parachute avec un éclair en dessous, et en fait, ça éclaire le champ de bataille. Donc il y a différents types. Il peut y avoir des éclairants à l'œil nu, il peut y avoir aussi des éclairants infrarouges, c'est-à-dire qu'il faut mettre vos lunettes, en fait, de vision nocturne, et ça vous permet de voir, alors que l'ennemi, s'il n'a pas de lunettes de vision nocturne, lui, ne peut pas voir.
Non, mais j'allais dire, vous balancez pas un obus, histoire de...
Ah non,
histoire d'y voir un peu plus clair.
Non, c'est pas notre style. Et donc, en fait, ce soir-là, donc, après la petite coupe de champagne, en fait, on a une COP qui a une suspicion de... Parce qu'il y a des mouvements autour de la COP qui sont anormaux, qui se rapprochent, donc ils ont une suspicion d'attaque. Donc, du coup, ils demandent un appui feu éclairant, de manière à bien voir la zone. Donc, bien évidemment, on se met en batterie, on déploie des tirs d'observation. Donc l'observateur envoie son message de tir. Donc vous savez, l'artillerie, c'est une chaîne. Donc en fait, c'est un message qui est formaté. Et c'est un message qui est formaté avec le tir à un numéro. Donc c'est le numéro, en fait, de l'observateur plus le numéro du tir. Donc par exemple, ça va être le 15-01. Donc l'observateur 15 et le 01, c'est le premier tir de 15. Et donc l'observateur lance son message de tir, je le réceptionne. Je vérifie que tout va bien. Et d'habitude, on ne parle pas à la radio. Tout se fait de manière quasi numérique, et donc il n'y a pas besoin de parler. Et donc là, en fait, je réponds à une tradition de l'artillerie, qui est que l'on fait soit en campagne de manœuvre, soit en campagne opérationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, je prends le combiné et je dis à l'observateur que ce tir, en fait, s'appellera Hugo 01. Et donc l'observateur a très bien compris... Parce que lui, en fait, c'était un observateur qui n'était pas sur mon unité, c'était celui qui était sur ta gamme. Donc, comprend par ce message qu'en fait, mon fils est né. Parce qu'en fait, on a une tradition dans l'artillerie, c'est que lorsqu'un enfant né d'un des soldats, cadre ou soldat de l'unité, et qu'on est en campagne de tir, eh bien, en fait, on nomme le tir du prénom de l'enfant qui est né. Et donc, du coup, l'observateur comprend, et au lieu de donner tous les commandements de tir avec le 15-01, il l'a donné avec le Hugo 01. Donc c'était assez émouvant pour moi, en fait, de me retrouver, en fait, avec ce tir qui était opérationnel, mais qui était fait avec le prénom de mon fils qui venait juste de naître le jour même, quoi. Donc voilà, donc ça a été une journée, on va dire, assez intense du matin avec la présentation... l'arrivée de mon fils, et puis le soir avec ce tir opérationnel qui porte son nom. Donc voilà, ça a été assez fort, on va dire, émotionnellement, quoi.
Et ensuite, on imagine que ça a été un peu compliqué d'attendre.
Alors après, c'est un peu bizarre, parce qu'en fait, moi, c'était mon premier enfant, donc en fait, j'étais papa, mais je savais pas ce que c'était au final, parce qu'en fait, on n'a pas touché encore, donc j'étais heureux parce que voilà, qu'à chaque fois j'appelais mon épouse, j'avais des échanges avec elle, elle me racontait comment ça se passait, donc c'était intéressant pour moi, mais j'étais un papa, on va dire, à distance, quoi. Et donc après, du coup, en décembre, quand la mission s'est terminée, donc je suis rentré en France. Alors, vous savez que quand on rentrait d'Afghanistan, on faisait un SAS par Chypre. Donc, en fait, on est passé par Chypre.
Le SAS, rappelons, c'est un retour d'OPEX. L'idée, c'est de ne pas renvoyer directement les militaires chez eux. Un SAS, littéralement, un moment où ils peuvent aller
décompresser.
Ouais, décompresser, voilà. Faire un truc un peu autre chose avant de retrouver leur famille. Et pas passer directement des obus au bébé.
Tout à fait. Donc, du coup, on passe par Chypre. Après, on prend l'avion, on arrive à Paris. Après, on prend le bus, on arrive au régiment. On finit par arriver au régiment. Là, bien sûr, les chefs du régiment veulent nous voir pour nous saluer, pour nous féliciter, pour nous de la mission, pour nous souhaiter bon retour dans les familles. Et puis après, vous rentrez chez où ? Donc alors, mon épouse avait ramené entre-temps la voiture au régiment parce qu'elle savait qu'elle pourrait pas venir me chercher. Donc du coup, je rentre au régiment et puis... En fait, je rentre avec ma voiture chez moi et puis après, ben, vous passez la porte et là, c'est bizarre quand même. C'est vraiment bizarre. En fait, vous vous retrouvez avec... En fait, vous partez, votre épouse est enceinte de 6 mois, vous revenez, elle est redevenue comme avant, et puis elle a un petit bébé de 3 mois dans les bras. Donc, et là, quand même, il y a une magie naturelle, on va dire, c'est que... C'est qu'en fait, vous le prenez dans les bras, et il sait que c'est vous, quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et encore aujourd'hui, c'est un souvenir fort pour moi, quoi. Mmh. Voilà.
Et du coup, vous avez pu garder un rythme de sommeil assez léger. Vous étiez entraîné, vous étiez entraîné au sommeil léger des premiers mois.
Alors, en fait, dans l'histoire, en fait, les militaires à qui ça arrive, parce que je suis pas le seul à qui ça arrive ce genre d'histoire, mais au moins grâce à ce témoignage, je rends hommage à tous les militaires à qui ça arrivait, et surtout à toutes les épouses et les familles à qui c'est arrivé, parce que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Mais moi, j'étais un papa heureux dans l'histoire, parce qu'en fait, mon fils, il faisait déjà ses nuits, donc au final, c'est fabuleux. Au final, je n'ai connu que le bon côté, puisque vous arrivez, votre fils fait ses nuits. C'est plutôt moi, en fait, qui ne faisait pas les miennes, qui ne me faisait plus les miennes, parce que j'avais tellement gardé le rythme de la mission, où en fait, j'étais réveillé toutes les nuits pour des tirs. Et donc, en fait, je me réveillais naturellement en milieu de nuit, parce que j'avais pris ce rythme-là d'être réveillé à chaque fois en pleine nuit pour pouvoir aller vérifier. Donc ben, les premiers jours après le retour, il fallait, ben, je me réveillais, donc je me levais, j'allais boire un thé, et puis je me recouchais. Et mon épouse me disait, mais tu sais, tu peux dormir maintenant. Donc,
c'était le cas rare du papa qui fait pas ses nuits et le bébé qui les fait bien.
Voilà, donc du coup, sur ce côté-là, mon fils, j'avoue, a fait ses nuits très tôt, et donc c'était bien pratique. Donc voilà. Donc c'est... Je trouve que la nature est assez bien faite parce que voilà, vous retrouvez avec votre fils dans les bras et puis lui il sait que c'est vous et c'est quand même un peu magique, quoi. Voilà, donc c'est quand même un bon moment qu'on vit à ce moment-là. Je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai pris mon fils dans mes bras. Ouais.
Très bien. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Benjamin.
Merci beaucoup.